Mais d'abord, il est 18h sur France Culture et c'est l'heure du journal présenté par Ilan Malka. Bonsoir Ilan.
Bonsoir Julie Gacon, bonsoir à tous. Giuseppe Conte démissionne. Le Premier ministre italien l'a annoncé cet après-midi au Sénat. Il s'est exprimé après le dépôt d'une motion de défiance présentée par la Ligue, parti d'extrême droite de Matteo Salvini, afin de renverser le gouvernement. Nous écouterons les précisions à Rome de notre correspondant Antonio Gallofaro. Madrid envoie un navire espagnol afin de prendre en charge les migrants qui sont présents à bord du bateau de l'ONG Proactiva Open Arms. Le bateau humanitaire est toujours bloqué au large de l'Italie. La situation à bord devient hors de contrôle. Selon l'ONG, 15 migrants se sont aujourd'hui jetés à l'eau pour rejoindre à la nage l'île de Lampedusa. Analyse à suivre, signée Mathieu de Taillac. 13 200 policiers et gendarmes épaulés par des forces militaires sont mobilisés pour assurer la sécurité du G7 à Biarritz ce week-end. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Il affirme qu'aucun débordement ne sera toléré. Nous l'entendrons dans cette édition. Fin de partie donc pour le gouvernement italien. Le Premier ministre Giuseppe Conte l'annonce aujourd'hui. Il va remettre sa démission au président italien Sergio Mattarella. Selon ses mots à lui, il interrompt son expérience de gouvernement, décision qui fait suite évidemment à la crise ouverte par le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, qui est aussi le chef du parti d'extrême droite La Ligue. Salvini avait annoncé rompre avec son allié de gouvernement, le mouvement anti-système 5 étoiles, précipitant donc ainsi la chute de ce gouvernement. Retour sur un après-midi très riche en événements avec notre correspondant à Rome, Antonino Gallofaro.
Giuseppe Conte était très remonté. La décision de Matteo Salvini d'ouvrir une crise politique est pour lui grave. Le Premier ministre, bien que sur un ton très calme, est sorti de ses gonds.
Cette crise interrompt prématurément un gouvernement qui, en un an, avait produit beaucoup de résultats. Elle fait courir de graves risques à notre pays. Une crise en plein mois d'août, avec des élections anticipées probables à l'automne, font que ce sera hautement improbable que nous puissions adopter notre loi de finances dans les temps. J'ajoute que cette crise intervient à un moment délicat dans nos relations avec l'Union européenne. L'Italie court le risque de participer à ces discussions dans une position de grande faiblesse. C'est pour tout cela que je dis que le ministre de l'Intérieur a suivi ses intérêts personnels et ceux de son parti.
Matteo Salvini est à côté de Giuseppe Conte pendant qu'il parle. Il fronce ses sourcils, il sourit, mais le chef du gouvernement démissionnaire ne se retient pas. Le fait que Matteo Salvini demande aux électeurs les pleins pouvoirs l'inquiète, mais il se réjouit que l'Italie ait les anticorps pour éviter toute dérive autoritaire. Après une heure, le chef de la Ligue retourne parmi ses sénateurs et réplique « Je referai tout ce que j'ai fait ».
Antonino Gallofaro. Le gouvernement espagnol décide de prendre le taureau par les cornes vis-à-vis de l'Open Arms. Un navire a donc été envoyé aujourd'hui par Madrid afin de prendre en charge la centaine de migrants toujours présente sur le bateau humanitaire qui stationne actuellement près des côtes italiennes au large de l'île de Lampedusa. Le ministre italien de l'Intérieur refuse toujours l'accostage du bateau depuis 19 jours. La situation à bord est devenue hors de contrôle selon l'ONG qui gère l'Open Arms. Une dizaine de migrants se sont jetés par-dessus bord aujourd'hui pour tenter de rallier Lampedusa à la nage. Les précisions de Mathieu de Taillac.
Le gouvernement de Pedro Sanchez en a eu assez, des refus de Matteo Salvini, des conditions aussi du ministre des Transports italien qui exigeait de retirer le pavillon espagnol de l'Open Arms, et des exigences enfin du capitaine de l'ONG qui disait son bateau et ses passagers incapables de reprendre la mer. Qu'à cela ne tienne, l'audace, autrement dit l'audacieux, un patrouilleur de 94 mètres de long, doit arriver vendredi soir au large de Lampedusa au terme de 3 jours de voyage. Là, le navire militaire doit prendre en charge les passagers de l'Open Arms et accompagner le bateau de l'ONG jusqu'à Palma de Majorque, au Baléares. Par cette décision, Madrid met un terme à 19 jours de polémique. L'Espagne évite d'avoir à dialoguer davantage avec l'Italie de Matteo Salvini, dont une ministre espagnole a taxé l'attitude de honte pour l'humanité. Le maintien de son refus alors que 6 pays européens se sont mis d'accord pour se répartir les passagers de l'Open Arms avait exaspéré Madrid. Et puis l'Espagne garde la main sur le bateau que Madrid avait interdit de sortie pendant des mois et sur l'ONG catalane elle-même. Le gouvernement n'a pas apprécié non plus que l'association lui dicte ses conditions. Enfin, et c'est en principe le plus important, Madrid résout une crise humaine qu'aucun autre État n'a accepté d'affronter directement. Par cette mesure, a écrit Pedro Sanchez sur Twitter, en espagnol et en anglais, l'Espagne résoudra cette semaine l'urgence humanitaire.
Notre correspondant à Madrid, Mathieu de Taillac. À Hong Kong, deux policiers arrêtés aujourd'hui après la diffusion d'une vidéo particulièrement compromettante. On les voit en train de maltraiter un homme dans un hôpital. Ces images ont été enregistrées fin juin par une caméra de surveillance. Les deux hommes en uniforme matraquent donc cet homme allongé et ceinturé sur un brancard. Ils semblent vouloir l'empêcher de crier en maintenant un drap sur sa bouche. Un porte-parole de la police affirme aujourd'hui que ces deux officiers ont donc été arrêtés pour agression ayant provoqué des blessures corporelles. Une enquête a été promise. On sait que parmi les revendications des militants qui manifestent en ce moment à Hong Kong, il y a justement la tenue d'une enquête indépendante sur des violences policières commises dans l'île. À Hong Kong, toujours, qu'est-il donc arrivé à cet employé du consulat britannique qui n'a plus donné de nouvelles depuis le 8 août? Le ministère des Affaires étrangères britannique se dit extrêmement préoccupé par cette affaire, notamment à la suite d'informations selon lesquelles ce fonctionnaire serait détenu actuellement en Chine depuis justement le 8 août dernier. Il aurait été arrêté alors qu'il revenait à Hong Kong depuis la ville de Shenzhen. Les précisions de notre correspondante à Londres, Marina Daras.
Simon Cheng n'a donné aucun signe de vie depuis 12 jours. Il était censé rentrer d'un voyage d'affaires à Shenzhen en Chine lorsqu'il a été intercepté à la frontière. Le jeune homme de 28 ans travaille dans le développement commercial de la section écossaise du consulat du Royaume-Uni à Hong Kong. D'après l'agence de presse locale, Simon Cheng était dans le train en direction de Hong Kong lorsqu'il a contacté sa petite amie et lui aurait demandé de prier pour lui avant que la communication ne soit coupée. En Chine, une détention administrative peut durer jusqu'à 15 jours sans qu'aucune raison ne soit donnée, ce qui inquiète fortement le ministère des Affaires étrangères britannique, d'autant plus que l'ambassadeur de Chine au Royaume-Uni avait demandé à la Grande-Bretagne de ne pas se mêler des affaires intérieures chinoises à la suite de violences lors de manifestations historiques contre le gouvernement. Depuis près de 3 mois, les manifestants hongkongais réclament des réformes démocratiques face à l'érosion des libertés ainsi que la démission de Carrie Lam, la chef de l'exécutif hongkongais, accusée d'être pro-Pékin.
Marina Daras. C'est l'attaque la plus meurtrière jamais subie par l'armée du Burkina Faso depuis ses confrontations régulières de ces dernières années avec des groupes djihadistes. L'attentat qui a frappé hier une base militaire dans le nord du pays a fait, selon le dernier bilan, 24 morts, 7 blessés et 5 disparus. L'état-major l'attribue aux djihadistes. Un conseil de défense extraordinaire est en cours au palais présidentiel de Ouagadougou, la capitale du pays. Le principal parti d'opposition du Burkina Faso demande la démission du gouvernement qu'il juge incapable de faire face à la situation. Depuis 2015, le pays s'enfonce dans une spirale de violence attribuée à une douzaine de groupes djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda, d'autres à l'État islamique. On peut parler de signe de concrétisation du Brexit en quelque sorte. Dès le 1er septembre, donc dans 12 jours, les représentants britanniques cesseront d'assister à la plupart des réunions de l'Union européenne, à l'exception de celles qui concernent l'intérêt national, comme par exemple celles qui concernent donc la sécurité. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministère chargé du Brexit. Le gouvernement estime que le temps ainsi gagné sera mieux utilisé en se concentrant sur le Brexit. Le Premier ministre Boris Johnson continuera cependant d'assister au Conseil européen. Le G7 à Biarritz est l'objet de 3 menaces majeures. La phrase est signée Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, qui a présenté le dispositif de sécurité du sommet. 3 menaces à gérer donc, celle d'individus violents, même si le contre-sommet d'Irun et Hendaï doit se tenir librement, assure le ministre de l'Intérieur. Il y a une menace également terroriste, même si pour le moment il n'y a pas d'alerte particulière sur le sujet. Christophe Castaner évoque enfin la menace cyber, allusion aux possibles attaques sur les réseaux Internet. Écoutons-le.
Si le débat et les contradictions politiques sont parfaitement légitimes, les violences ne le sont pas. Il doit être bien clair que nous ne tolérerons aucun débordement. S'ils surviennent, nous y répondrons. Notre objectif a pour but de permettre la dispersion immédiate des attroupements et l'interpellation rapide des fauteurs de troubles. Nous avons déployé des moyens majeurs, nécessaires, adaptés. Ainsi, le dispositif de sécurité mobilisera 13 200 policiers et gendarmes. Ils seront épaulés par les forces militaires qui assureront des missions de contre-terrorisme et de protection de nos abords aériens et maritimes. Ils seront appuyés également par les forces de l'ordre déployées côté espagnol. Enfin, nous veillons à ce que les secours soient assurés, les professionnels de santé disponibles pendant toute la durée du sommet. Notre vigilance est maximale, nos moyens importants. Pour une raison simple, ce rendez-vous le justifie.
Et justement, 5 individus soupçonnés d'avoir voulu s'attaquer au G7 ont été interpellés et placés en garde à vue. Certains d'entre eux appartiennent à la mouvance Black Blocs. Ils ont été arrêtés en France hier, mais on l'apprend aujourd'hui, pour des appels sur les réseaux sociaux à attaquer un lieu d'hébergement des gendarmes lors du sommet de Biarritz. 4 de ces individus ont été remis en liberté, mais l'un d'entre eux était toujours en garde à vue cet après-midi. Le dossier est pris en charge par le parquet de Melun. Un pompier a été agressé la nuit dernière lors d'une intervention pour un feu dans une maison près de Niort. Il a été frappé au visage par un homme alcoolisé. Ce type d'agression visant des pompiers est de plus en plus courant. D'après leur syndicat, elles sont en hausse de 20% chaque année depuis 2015. Les raisons de ces agressions sont variables. Elles sont généralement le fait de personnes souffrant de troubles psychiatriques. Elles peuvent aussi parfois être causées par des personnes qui se plaignent d'avoir attendu trop longtemps et dont le comportement va dégénérer. Elles peuvent aussi résulter d'embuscades tendues aux pompiers. Que faire en tout cas face à la recrudescence de ces violences? Écoutons à ce sujet Jérôme François, il est secrétaire général UNSA SDIS et pompier dans le Val-d'Oise.
Il y a plusieurs types d'agressions, donc c'est difficile d'apporter une réponse unique. Dernièrement, est sorti un décret sur le fait que les sapeurs-pompiers peuvent désormais porter des caméras, comme les policiers. Alors ça, il y a du pour, il y a du contre. Il y a du pour parce qu'effectivement, dans le cadre d'embuscades, ça peut nous permettre d'identifier des agresseurs, mais ça va pas régler tous les problèmes parce que la caméra a un accueil beaucoup plus mitigé chez nous, puisque on rentre chez les gens, on rentre dans leur intimité, et peut-être que la caméra sera vécue comme un intrus. Après nous, le message qu'on veut faire passer, c'est également eh bien une tolérance zéro. Parfois, la réponse de la justice n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait s'attendre. Sur les formations également, les sapeurs-pompiers aujourd'hui font 85%, c'est du secours à personne, c'est plus du feu. Le feu aujourd'hui, c'est une petite partie de nos interventions. Or, la formation qu'on a sur la prise en charge des menaces de violence, la prise en charge de pathologies psychiatriques, c'est proche de zéro. On a un problème également d'articulation avec les forces de l'ordre, parce qu'en théorie, sur toutes les interventions où il y a un risque pour notre intégrité physique, on doit intervenir sous protection policière. En pratique, la police sont souvent sous-effectifs, et je prends un exemple tout bête, vous arrivez au pied d'un immeuble, derrière la porte, vous entendez que ça hurle, il y a une rixe à l'intérieur, peut-être une femme battue. En théorie, vous demandez la police pour rentrer. En pratique, la police n'a pas d'équipe disponible. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez à vos risques et périls.
Des propos recueillis par Fiona Mogadam, et rappelons que les pompiers sont en grève depuis bientôt 2 mois, et la question des violences est justement l'un des thèmes centraux de leur mouvement. C'est une nouvelle vidéo choc que vient de publier l'association de protection animale L214, une vidéo qui dénonce un nouveau cas de maltraitance animale dans un élevage de lapins situé dans les Deux-Sèvres. Les images ont été tournées entre fin mai et août dernier. Laura Dudieu, bonsoir.
Bonsoir.
Alors l'association dénonce des conditions de vie particulièrement cruelles pour ces lapins.
Oui, avec des cages alignées dans un entrepôt sans fenêtre où s'entassent sur du grillage des milliers de lapins. Certains d'entre eux sont morts au milieu des autres. Pour Sébastien Arzac, le porte-parole de L214, cet élevage des Deux-Sèvres est particulièrement problématique, mais il est quand même révélateur.
La question sanitaire de la tenue de l'élevage, puisqu'on a trouvé des médicaments qui étaient périmés depuis plus d'1 an, des effluents d'élevage à l'extérieur du bâtiment qui ne sont pas contrôlés. Ça, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas généralisable, mais le mode d'élevage des cages et les conditions de vie des lapins dans cet élevage sont tout à fait représentatives de l'ensemble des élevages en France. Ce n'est pas tellement de montrer du doigt un éleveur particulier, c'est vraiment de remettre en cause et de questionner le mode d'élevage intensif dont les élevages de lapins sont un symbole un peu extrême.
L'écrasante majorité des lapins d'élevage vivent dans des cages toute leur vie, mais la filière se transforme, c'est ce que nous assure Mathieu Loll, directeur commercial de l'entreprise Loll et Perriot du groupe ALPM, également basé dans les Deux-Sèvres. C'est le leader sur le marché. Le directeur assure ne pas travailler avec l'éleveur mis en cause et appelle à ne pas discréditer toute la filière.
On est conscient que les consommateurs cherchent des produits qui soient plus respectueux du bien-être animal. C'est un cas particulier. Après, il faut savoir qu'on a quand même un secteur économique qui est fragile. Donc on a des transitions à faire au niveau de nos éleveurs pour sortir de la cage. Mais on reste sur un monde agricole. C'est-à-dire que nous, pour transformer des élevages, il nous faut du temps. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on va dans cette mutation-là de sortir de la cage, c'est des procédures qui vont prendre plus d'une dizaine d'années.
Et l'entreprise assure travailler à réduire la dose d'antibiotiques et à diminuer l'élevage en cage. Justement, une initiative citoyenne européenne a été lancée pour interdire cette pratique. Elle a déjà récolté plus d'1 million de signatures, soit le seuil nécessaire pour être examinée par la Commission européenne.
Merci à vous, Laura Dulieu. Le soleil fera son retour demain sur la plupart des régions. Seules quelques ondées orageuses seront encore présentes sur les Alpes dans l'après-midi. Les températures de demain matin partent de 17 degrés dans le Finistère, elles montent jusqu'à 29 en Haute-Corse. Cette édition a été préparée avec François-Charles Domergue, elle a été réalisée à la technique par Cindy Le Grumelec.